Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court. C'est tous les soirs une heure de conversation avec les artistes et ce soir c'est avec la ribote.
Un tango, une danse, un baiser.
Ça y est,
puis 21h.
Ah ben à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-t-on qui court.
Marie Richieux, Richieux, oh Marie Richieux avec la ribote.
Il y aurait d'un côté contrôler les masses et de l'autre côté rendre les individus responsables de leur regard, de leur déplacement, de leur corps, de leurs relations. Responsables, donc joueurs. Et il n'y a aucun doute que vous vous situez la ribote de ce deuxième côté-là. Mercredi soir, dans la galerie 3 du Centre Pompidou à Paris, plusieurs dizaines de personnes ont trouvé leur rythme en se calant tranquillement sur le vôtre. Pendant 3 heures, vous interprétez ou pas, 34 petites pièces distinguées par leur durée de quelques secondes à plusieurs minutes. Ce sont des pièces qui ont été créées principalement dans les années 90 et vous avez comme partenaire la pensée, les murs, les objets, la musique, mais aussi nos sourires, nos rires, nos déplacements et nos yeux. Panoramique, c'est le titre de ce long moment, de ce temps, et il donne de la force. Pourtant, ce n'est pas faute d'y faire l'expérience par effet de proximité et de miroir, d'y faire l'expérience de nos nombreuses vulnérabilités. Bonsoir, la ribote.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Le Festival d'automne vous met à l'honneur pour son édition 2019, qui va durer jusque fin décembre, mais pour tout ce qui vous concerne, vous, c'est jusqu'à la mi-novembre dans différents lieux d'Île-de-France. J'essaierai de les détailler sans être ennuyeuse tout à l'heure. Le Festival d'automne, quand il met à l'honneur, il dit qu'il fait le portrait. Vous avez quoi comme rapport avec ce mot-là?
Je ne sais pas, c'est un bon nom, non, pour décrire ou parler d'un artiste.
Vous aimez bien, vous, faire le portrait des choses. Le panoramix, par exemple, ça commence par un miroir qui se promène. Et ça joue là-dessus, ça joue sur la manière dont la peinture fait des portraits, sur comment on se regarde, comment on est regardé.
Oui, tout à fait. C'est comme ça que je commence, en regardant le public et les spectateurs à travers les miroirs. Ouais, j'aime bien.
Qu'est-ce que vous y voyez ?
Bon, je crois que plutôt que voir, j'essaie d'établir des nouvelles relations dans cet espace énorme qu'on va partager pendant 3 heures. Et c'est peut-être les premières règles que j'ai place pour eux.
Est-ce que vous pouvez essayer de le décrire avant qu'on s'y promène un peu, cet espace, pour Panoramix?
Bon, c'est un espace assez blanc, neutre, où il y a 4 murs. Et dans les murs, il y a collé avec scotch, tape marron assez cheap. Et tous les objets que je vais utiliser. Et aussi, le sol, il est couvert de carton. Tout le sol. Et il y a aussi des autres objets par terre. Donc, l'espace, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de signalisation. Il n'y a que moi, les spectateurs, les objets et la grande surface de carton. Et là, on commence pendant 3 heures. Je commence à dérouler, à faire une par une chaque pièce distinguée de l'époque des années 90, que c'était 3 séries. Ils sont 34 à la fin. 34 pièces distinguées.
Pourquoi elles s'appellent les pièces distinguées? Vous pouvez les rappeler?
Elles s'appellent parce que quand j'ai commencé le projet, j'ai toujours aimé beaucoup Erik Satie. Et il a les 3 valses distinguées de Précieux dégoûté. Et c'est à partir de là que j'ai dit, bon, alors mes pièces, elles vont s'appeler distinguées. Aussi pour signaler qu'elles étaient distantes l'une des autres, qu'elles étaient distinguées parce qu'elles étaient dans un autre esprit qui n'était pas... disons, un esprit Ah, comme si qu'ils étaient distants les uns des autres et que je voulais faire une accumulation de 100 pièces. Donc, vous avez vu, à Panoramix, il y a 34. Après, dans les portraits du Festival d'automne, on pourrait voir dans un ordre distingué de la 46 à la 53. Et mon projet de vie, c'est de continuer avec la 54 jusqu'à la 100 avant de mourir.
Vous dites que c'est un espace qui est grand. Et en fait, assez rapidement, il n'est plus si grand que ça. Plus ça va, plus vous performez ces pièces-là, la ribote, et plus la pièce, elle change de mesure un peu. Vous le percevez toujours comme un grand espace dans lequel vous vous déplacez?
Bon, c'est vrai que c'est une description de l'espace, disons, analytique. Mais si, d'un point de vue émotionnel ou plus sensationnel, tu as complètement raison. Il y a un moment donné que presque l'espace, d'abord, il se met dans les miroirs. C'est-à-dire que tout là, l'immensité, c'est assez grand l'espace, il rentre dans ces miroirs qui est rond et qui est assez petit. Et je vois tous les spectateurs avec ces miroirs qui bougent pendant quelques minutes. Alors ça se réduit énormément et tout. Après, avec Fat et le Comet, que peut-être c'est la pièce d'après, l'espace il s'est quadri, comment on pourrait dire, c'est divise par
toute petite case, comme si il était quadrillé.
Oui, oui, quelque chose comme ça qui respecte et qui les donne au spectateur un signal de que jamais j'allais les toucher. Donc j'ai une deuxième règle. On va pas se toucher, c'est pas là, c'est pas ce type de participation ou de partage, c'est un partage beaucoup plus mental et émotionnel et des idées et d'espace. Donc là, avec ces pièces, je crois que c'est clair qu'on va pas, qu'il y a pas de danger, de touche, il y a rien de ce type de relation. Et après arrive la sirène, Muriendo se la sirena, que je crois qu'avec cette pièce, déjà, je propose un ton très long. Et on commence à comprendre que les choses vont se passer lentement et tranquillement entre tous.
Cette pièce-là, vous avez une sorte de drap blanc posé sur une partie de votre corps et qui va bouger à la faveur de soubresauts de certains de vos muscles et de la surface de votre peau. Vous êtes nu dessous et le drap bouge. Et le drap qui au départ peut être un drap de sommeil ou un drap de malade ou un drap qui recouvre un corps, même un linceul éventuellement, devient un drap d'odalisque ou une sorte de queue de sirène à la fin de la pièce. À la fin de chacune des pièces, vous jetez en l'air les choses. C'est le caractère extrêmement jouissif de la fin des pièces, la ribote. Est-ce que vous le vivez comme ça aussi? Est-ce qu'à chaque fois que vous balancez des trucs à la fin, vous avez comme un petit éclat de joie?
Peut-être, je ne devais pas jamais penser à ça, mais peut-être, il y a surtout, pour moi, c'est un geste de fin, évidemment, mais aussi de tâcher le sol, l'air, et c'est une espèce de jet presque que des peintres, comme paf, les rouges, ils rentrent à tâcher le sol, ou le cahier, ou n'importe quoi, parce que je jette presque tout, je les jette, tout. Et oui, c'est un geste, une action painting presque, comme paf, qui signalise la fin d'un truc, ouais. Et qui tâche, et qui remue et qui commence à bouger l'espace.
Est-ce que vous savez exactement quand est-ce que vous allez jeter la chose? Quand est-ce que la pièce distinguée va se terminer? Ou est-ce que vous-même vous êtes surprise?
C'est assez écrit, tout est assez écrit. Je dis toujours, j'écris beaucoup les pièces, presque, ça, toujours, mais c'est de pas fixe. C'est-à-dire, il y a c'est pas la liberté, mais il y a un jeu, que c'est le jeu du vivant, qui pour moi c'est super important de maintenir les choses écrites, mais pas fixées. Donc, l'écriture, elle comporte, elle conforme écriture en soi, des gestes, des compréhensions des moments, des analyses de qu'est-ce qui est, tu peux faire, mais les vivants te surprennent beaucoup de fois et je me laisse aller beaucoup avec les vivants. Mais par exemple, la jeter les sauces, il y a des jours que je suis beaucoup plus caractérielle et la sauce part avec beaucoup plus d'humour ou de violence. Ou il y a des jours que je suis beaucoup plus douce et la sauce, je la pose presque. Ça dépend aussi de ce que je jette.
Au départ, vous le disiez, il y a cette pièce qui quadrille l'espace. Vous passez entre nous avec un carton de votre, devant votre, une partie de votre corps. Et puis, vous nous signalez en effet qu'il n'y aura pas de danger d'être touché, pas de percussion, pas de manière de nous interpeller. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça se vérifie par la suite entre nous. On est beaucoup avec vous quand même, oui. On est plusieurs dizaines. Et on ne se percute pas. On ne se gêne pas. On finit par se baisser pour laisser voir l'autre. On choisit des angles de regard pour participer par le regard de manière différente. Bref, petit à petit, on prend nos propres responsabilités de déplacement dans cet espace-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est arrivé facilement dans votre travail, Larry Bott ? Que nous-mêmes, en tant que spectatrices et spectateurs, nous soyons respectueux de l'espace et des autres ?
Non, pas facilement, parce que ce sont des choses qui très importantes. Par exemple, pour les pièces distinguées, je me souviens très très bien l'année 2000, quand j'ai fait la troisième série, qui s'appelle Still Distinguished. Et c'était la première fois que les dispositifs étaient les spectateurs avec moi. Alors j'ai dû apprendre beaucoup à comprendre et voir comment partager, diriger sans dire et faire responsable à l'autre sans le poser un poids énorme. Comment toute cette trace-base de ces moments, là, les vivre ensemble, et comment je devrais le faire. Alors j'ai appris beaucoup de choses par expérience pure, directe expérience. Et quand j'ai fait Panoramix, que c'était 3 ans après, j'ai copié le même dispositif de Still Distinguished pour toutes les pièces précédentes. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions de comment ça peut se passer. Et l'ordre des pièces de Panoramix aide à ça. C'est-à-dire, il y a une dramaturgie qui nous fait comprendre petit à petit comment on doit voir ça, dans le sens de pouvoir les voir tous ensemble, parce que c'est pas facile. Il y a des gens qui se mettent devant debout, par exemple. C'est impossible parce que tu ne vois pas. Alors, comment entre vous, vous arrangez les temps et l'espace pour pouvoir le voir?
Ça passe par notamment une manière d'être aimanté par vous, au départ. Au départ, partout où vous allez, on vous suit. Ouais. C'est vrai, non?
Oui.
C'est drôle. Partout où vous allez, on vous suit. On vous suit pour n'importe quel truc. Vous allez chercher un truc dans un coin, tout le monde vous suit. Et petit à petit, ça devient moins autoritaire. C'est-à-dire que votre manière de nous aimanter, ou peut-être on s'émancipe de ça, mais petit à petit, on vous suit un peu moins précipitamment parce qu'on s'est fait avoir 2-3 fois et qu'on y va moins rapidement. Est-ce que vous avez l'impression que justement, c'est aussi quelque chose qui se détend dans votre performance de 3 heures, qu'il y a une autorité naturelle qui peut-être prend de la douceur petit à petit?
Oui, évidemment. On prend tous de la douceur. Parce que je pense toujours que l'autorité, c'est la douceur, principalement. C'est la compréhension, ça c'est l'autorité pour moi. Comprendre les choses, pas les faire faire, sinon les faire comprendre. Donc, petit à petit, je crois que je fais penser à l'autre que c'est à eux à être douze, moi aussi, et à la fin on est tous complètement dans une espèce de club tous ensemble tranquillement, et les gens comprennent parfaitement que si je dois aller chercher là, je les souris pour qu'ils ne bougent plus, pour qu'ils m'attendent. Il y a beaucoup de façons de se parler sans mots.
Il faut bien se persuader d'une chose. Les objets ne sont pas notre décor, notre cadre. Ils sont nos spectateurs. J'aime les décors qui sont nos spectateurs. Les meubles, les objets dont nous risquons, si nous ne nous surveillons pas, d'être les pitres qui assistent à nos pitreries. Comme une assemblée autour de nous, de Dieu qui nous juge, nous considère, qui nous aide. Il faut que le tableau ou la sculpture, voire la moindre table, la moindre lampe, m'oblige à une certaine tenue, soit plus important que moi. J'aime vivre dans un temple dont je ne sois pas le dieu, mais le fidèle. l'autre reconnaissant. Au maximum, le père, qu'il soit mes chevaliers. J'aime, rentrant chez moi, être chez mes dieux, du moins chez mes chevaliers, subir ma métamorphose, être changé en moi-même.
C'est le poète Francis Ponge en 1964. La ribote est juste avant un bruit que vous connaissez probablement, celui de la chaise pliante pour l'une des performances, mais aussi pour dire l'importance des objets. Alors lui, il dit « J'aime que les objets ne soient pas nos décors, qu'ils ne soient pas nos spectateurs ». Vous, vous avez quoi comme rapport aux objets qui sont nombreux ?
Je crois que mon rapport aux objets, c'est le même que mon rapport au texte, mon rapport au corps, mon rapport à les spectateurs et mon rapport aux musiques. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie entre les choses. Et un des exercices, disons, pour l'appeler exercice des panoramiques, c'est exactement ça, c'est aplatir les hiérarchies entre les choses. Mais, évidemment, les objets, c'est la chose qui prend plus de place parce que c'est le plus tangible et le plus matériel des choses qu'on voit. Donc, peut-être la façon de les jeter, c'est lié à ça. Aussi, on pourrait dire qu'en les jetant, je les lance dans l'espace comme peut être la musique ou la lumière ou les sons qui s'évapore, non? Pas exactement, mais pareil. Peut-être c'est ça ma relation avec les objets, ouais. Sans hiérarchie.
Sans hiérarchie, pourtant on sent qu'ils sont choisis avec soin. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne. Par exemple, c'est pas n'importe quelle radio qui, dans une des pièces, tourne sur une radio d'information en continu, tandis que vous crachez de la fumée par un tuba et vous semblez pouvoir nager sous le sol. C'est une radio qui fait du boucan, qui est toute noire, toute en ferraille. C'est pas n'importe quelle radio, vous la choisissez, la ribote, vous ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, elle est là pour ce qu'elle est, non ?
Oui. C'est vrai que les objets sont très, très, très choisis. Très, beaucoup. Et il y a des fois que je les ai à côté de moi pendant des années, et tout d'un coup, paf, un jour, prend forme et prend l'essence exacte pour la pièce ou le travail que je suis en train de faire, mais surtout dans les pièces distinguées, parce qu'il y a des autres travaux qui sont plus... Mais les pièces distinguées sont assez distinguées, c'est-à-dire que l'objet, il est très simple, très, très précis. En général, les pièces distinguées sont très, très précises, toutes. Et la radio, par exemple, si on parle de ces radios, c'est une proposition de musique que je l'avais fait à un copain musicien, Fernando López Hermoso, et il m'a dit, d'accord, tu vas avoir une radio que je vais mettre dans un compteur de gaz et que tu vas allumer le moment que tu fais le moment que tu fumes. Ah d'accord, alors tu l'allumes avec la radio du lieu de ce moment-là. Et c'est ça que je fais. Alors c'est un concept de Fernando López Hermoso.
Je pense aussi à une autre pièce où vous portez un short en cuir et des genouillères et des coudières et vous êtes en train de faire du crochet en même temps que vous lisez à voix haute Don Quixote de la Mancha, en même temps que vous, je sais pas, faites quoi avec un dossier de chaise sur vos fesses, peut-être vous les musclez.
Bon, je danse, oui.
En tout cas, vous les dansez.
J'ai fait plusieurs fois, plusieurs choses en même temps.
Plusieurs choses en même temps. Ce short en cuir, là, ce serait très différent si ce n'était pas ce short en cuir, là. Cette performance-là, cette pièce-là, elle serait très différente, à mon sens. Je ne sais pas, parce que le cuir, il appelle quelque chose de particulier.
Oui, ça, c'est un reste. Il y a beaucoup de choses... Toujours, il y a beaucoup de choses, mais ça, c'est spécifiquement, ça, c'est un reste d'un autre, d'un costume que j'ai jamais utilisé et qui est resté comme ça à côté de moi. Et tout d'un coup, pues, pour de la Mancha, j'ai trouvé que c'était fantastique comme short de sport pour faire cet sport que c'est jouer tout en même temps, lire et faire les crochets, danser. La lumière, mettre la lumière jaune et la musique.
Avoir des talons aiguilles.
Ouais. Oui. Et c'est finalement une tâche impossible parce qu'on ne peut pas le faire. Alors il y a seulement 10 secondes ou 5 secondes de joie où on peut vraiment harmoniser tout, mais il y a tout, c'est une pièce qui est. C'est une faillite permanente, presque.
J'y ai vu plein d'injonctions faites à la femme contemporaine. Est-ce que c'est possible de faire du crochet en même temps que danser, en même temps que lire un livre fameux, en même temps que porter des talons aiguilles? Je me suis dit faillite de ça. C'est impossibilité
vrai.
De ça.
Tu sais, il y a, dernièrement, tout le monde me parle de cette pièce comme ça, mais ce n'était pas du tout mon intention. Et, non, c'était plutôt un truc beaucoup plus abstrait, dans le sens de bon, faire ça en même temps. Mais et là, maintenant, avec toute cette vision de maintenant, exactement de l'actualité, de comment on regarde les femmes et tout ce MeToo, mouvement féministe assez revendicatif, on voit tout avec ces perspectives. Mais je ne le fais pas avec ces perspectives totales. Mais évidemment, on peut les lire, parce que c'est très drôle, non, de les lire aussi comme ça. Et c'est assez visible aussi. C'est une lecture possible.
Oui, mais d'ailleurs, ça prouve que c'est ouvert. En fait, ça prouve aussi que ces pièces distinguées, elles sont très précises, mais elles sont très ouvertes dans le sens qu'elles peuvent recouvrir. Je pense à une autre pièce dans Panoramix, où petit à petit, vous installez des objets rouges au sol. Et puis, vous avez une perruque, et puis vous avez des poils que vous placez sur votre sexe. Et puis, d'un seul coup, ces objets rouges peuvent être du sang, de règles, des menstruations. Et puis, il y a de la lumière rouge sur vous. Et puis, il y a Jealous Guy. Et alors, moi, je me suis dit, est-ce que je suis beaucoup trop agie par l'époque? Et j'ai vu d'un seul coup des féminicides, j'ai vu des meurtres de femmes. Tout de suite après, vous allez pleurer contre un mur. Et alors, je me suis dit que j'étais presque, que mon regard était victime de ce que j'avais appris, le meurtre d'une femme au Havre 2 jours avant, par exemple. Que ça teintait mon regard, que j'arrivais pas à résister.
Ouais, dans ce cas-là, c'est exactement ça. D'ailleurs, ça, c'était une nouvelle que j'ai lue dans les journaux en Espagne. C'était l'attaque et le crime de Sonia, qui c'était un travesti, qui a été tué à Barcelona, dans un parc, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup bouleversé. Alors cette pièce, elle parle exactement de ça, de cette personne qui n'a pas de sexe ni de genre, et qui c'était pas une question ni de femme, ni d'homme, ni de rien, c'était un être humain qui était tué seulement parce qu'il était différent. Et c'est exactement ça, ça s'appelle Sonia, ouais.
Panoramix se termine par du sang aussi. Ouais. En tout cas, se termine par du rouge, qui est une couleur très présente. Il y a plein de couleurs. Ouais. C'est parfois même une explosion de couleurs, la ribote Panoramix. Mais il y a ce rouge-là qui est très présent. Ce sang final, il est aussi plein de sens différents, ou il a lequel pour vous? Quel sens exactement?
Elle se répète en permanence les sons dans toutes les pièces distinguées. C'est comme les cartons, c'est comme les chaises. Il y a des constantes esthétiques, et des couleurs et des significations qui changent. Des petits appareils comme les ventilateurs, la radio, des instruments de mesure. Il y a beaucoup de choses qui se répètent et prennent forme dans les différentes années, parce qu'on parle de, par exemple, les pièces de Panoramix sont 8 ans. Je les fais en 8 ans. Donc, ça dépend quelle année, la leçon, elle prend une autre forme. Another Bloody Mary, c'est avec les Lego, les plastiques. C'est différent que, par exemple, Euphémia, que c'est la première pièce avec la leçon liquide, bien, bien rouge et bien, bien fausse, non? Donc, il y a des choses qui se répètent, qui sont, le son, ça, ne sais pas, c'est un truc, des fois, il n'y a pas d'explication pourquoi on fait les choses. Ça m'attire beaucoup. Le son, c'est quelque chose qui vient beaucoup dans ma tête, qui signifie beaucoup de choses aussi, évidemment, les règles, les crimes, les corps à l'intérieur. Beaucoup de choses. Le rouge, en soi, comme couleur, très vivant, très fort. Aussi las corridas de toros, beaucoup de choses de ma culture, de ma vie, de ma mémoire, beaucoup de choses.
En épinglant une page, je fais rentrer la page format papier dactylo dans une plus grande page qui serait un mur. Je peux mettre dans cette plus grande page qui est un mur, je peux y inclure beaucoup de pages. Et alors là, il m'est arrivé souvent, ayant épinglé des pages sur le mur, d'un coup d'œil, d'opérer des rapprochements imprévus, non prémédités. Et au fond, épinglant plusieurs pages sur un mur et jetant au passage un coup d'œil. C'est un état métaphorique de la page initiale ou de la note initiale qui facilite le déplacement des mots et qui m'a permis de travailler dans la plus grande confusion voulue, même si en les épinglant, j'étais mu apparemment par un souci d'ordre. Mais c'est une façon, si vous voulez, de précipiter ma perte dans la page.
André Duboucher, le poète qui, en 1980, hésite entre le chaos total, le bazar et l'organisation, épingler des pages au mur comme méthode de travail. C'est la chose par laquelle nous sommes accueillis, en tout cas à la Galerie 3 du Centre Pompidou, la Ribote, par des choses qui sont épinglées au mur, notamment des facsimilés de carnets de travail. On pourra aussi les voir au CND de Pantin. Et puis, quand on arrive dans ce grand espace, ce sont plus des carnets épinglés au mur, mais des objets, des robes, vous le disiez tout à l'heure, avec du scotch brun, commun. Est-ce que vous diriez que ça va du côté du chaos dans votre travail, ou est-ce que ça va du côté de l'ordre ?
Probablement les deux choses, non ? Probablement c'est un espèce de chaos très organisé dans ma tête. Et, ouais, c'est comme ça. La pensée, elle n'est pas organisée comme on organise les choses. La pensée, elle va comme elle peut, non? Et c'est ça comme je vois les choses. Et c'est comme ça que je crois que les cahiers montrent une façon de voir, de travailler, où il y a une recette qui se mélange avec un poème, qui se mélange avec une liste de choses à faire, avec tout un parcours, toute une écriture, de comment c'est défini, une réflexion. C'est très, très... C'est pas chaotique, c'est simplement ne pas organiser autant. C'est ça, peut-être, non?
Vous travaillez comment, quotidiennement, par exemple?
Ça dépend des projets. Ça dépend beaucoup, beaucoup des projets. Il y a des projets qui travaillent seuls, ou plutôt seuls. Il y a des projets qui travaillent avec des gens. Donc, c'est assez différent, la façon de se mettre en route. Mais chaque projet a une méthode différente de travail. Alors, les systèmes de comment travailler, je trouve que c'est la chose la plus importante à trouver dès le début. Si on trouve comment travailler ensemble, ou comment je me lance à travailler, même si je suis seule, ça roule. Et c'est des fois très difficile de savoir comment travailler. Quelle est la méthode pour cette pièce, pour ce travail, pour ça.
Comme s'il y avait un système qui devait être inventé pour chacun des travaux qui s'engagent, quoi.
Si, il y a, je crois qu'il y a un système. Après, par exemple, les pièces d'Estanguet, c'est un projet long, 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 ça fait 30 ans que je suis dans ce projet, et il a... En soi, je sais qu'il y a une façon de travailler. Et d'ailleurs, je me surprends des fois parce que des fois, j'imagine que le projet, il est écrit, que je dois seulement le dévoiler de la sensation de savoir qu'est-ce que je dois faire. Mais.
C'est génial, ça, non?
C'est assez génial de le dire et de l'imaginer comme ça. Après, comme toutes les choses qui on dit sont pas exactement comme ça, mais il y a une sensation très, très borgiana, non? De que les choses sont écrites. Et que j'ai besoin de temps pour dévoiler. C'est pour ça que ça me tient beaucoup à cœur, ce projet, parce que pour moi, il est écrit. Je dois seulement vivre pour le faire. Mais quand on travaille avec des autres, c'est beaucoup plus compliqué, ou c'est une autre chose. Donc, comprendre la façon de travailler, c'est très important. Je viens de faire, par exemple, là, maintenant, un spectacle avec Mathilde Monnier, et Thierry Rodriguez, et une des choses les plus importantes, c'est comment comprendre comment on peut travailler ensemble. Et c'est très beau, très difficile, et les moments qu'on comprend les trois, que c'est comme ça, ça commence à vraiment se faire. Les moments qu'on ne le comprend pas, on se perd les trois, on se comprend pas. Alors, les méthodes, il est super important.
Mais alors, comment on fait? Parce que, par exemple, Mathilde Monnier était à ce micro-là au printemps dernier et vous étiez en train de commencer à travailler. Elle disait, je peux pas vous dire grand-chose pour l'instant, on est en train de commencer à travailler. Bon, là, on imagine que la pièce allant se jouer, vous avez bien travaillé ensemble. Il se passe quoi? Il se passe qu'à un moment donné, il y a un territoire qui est autonome et qui se révèle à vous et qui est différent de ce que vous aviez tous imaginé, que d'un seul coup, vous pouvez... Inventer une quatrième forme, vous êtes trois, puis c'est un quatrième truc qui apparaît. comment vous travaillez en plus, voilà, avec des univers très forts les uns les autres.
Ouais, ouais, c'est très difficile et je ne sais pas très bien comment te répondre, mais par exemple, j'essaie de comprendre. Il y avait un moment donné que Thiago venait avec des textes.
Thiago Rodriguez, il faut dire, auteur, dramaturge, metteur en scène, Mathilde Monnier, du côté plus de la danse ou de la chorégraphie, pour dire les choses rapidement.
Oui, c'est-à-dire que Mathilde, moi, aucun des trois était les metteurs en scène. C'est-à-dire, on était les trois metteurs en scène, les trois, mais peut-être Mathilde et moi, on était plus dans les côtés corps, parce qu'en plus, on va être nous sur scène. Donc, on était plus en charge de nous, comme au corps et, disons, la chorégraphie. Et peut-être Thiago, écriture, évidemment, parce qu'en plus, il est fantastique, il écrit très bien. Donc. Mais ce n'était pas aussi facile, il venait avec des textes, et tout d'un coup, les textes, on ne savait pas comment les dire, tranquillement, comment les dire, avec nous, avec comment nous on travaille. Et c'était impossible. Alors, si on commençait à dire les textes, seulement les textes, on ne trouvait pas les corps, ni comment dire les textes. Alors, on le disait à Thiago, non, mais c'est pas possible, on peut pas travailler comme ça. Là, maintenant, on va faire des sessions entières, des journées entières, où on ne parle pas, on ne dit pas, et on cherche des choses qu'il y a des idées dans les textes, mais qu'on les fait avec les corps, les trois. Et on passait des journées entières sans parler. Alors, c'était ça. Et à la fin, on a pu vraiment donner corps aux mots de Thiago. C'est littéral ça qu'on a fait. Mais on a dû passer par des moments où on ne pouvait pas parler de les textes, sinon seulement travailler avec les corps. Et après, on a réussi à les coller ou à l'assembler.
C'était joyeux les journées sans aucun mot, où vous cherchiez sans vous parler? Ou c'était
ouais,
dur?
Non, pour moi, oui. Pour moi, oui. Je crois que pour Mathilde aussi. Non, et pour Thiago aussi, oui. Oui, parce qu'on teste et tout travaille autrement. Oui, très bien. C'était très difficile la création, mais en même temps, je peux dire que c'était très, très belle. Mais ce sont trois univers très différents qui ont avec la volonté de se mettre ensemble. Et alors, il y a beaucoup de curiosités et des difficultés, mais très curieux. C'est très, très curieux, très, très beau.
Operating instructions. We are pleased you have chosen this unit. This is a light, compact and exceptionally powerful unit. Please, before use, read these instructions carefully.
Est-ce que vous voulez bien me dire, Larry Bott, ce que vous faites, puisque c'est vous qu'on entend?
Bon, je suis à la fois une machine et qu'on ouvre pour la première fois et on lit les instructions pour utiliser une machine et en même temps je suis la machine.
Donc vous êtes la machine et l'utilisateur ou l'utilisatrice de la machine.
Je suis l'objet et les sujets.
Exactement. Et évidemment, nous qui sommes spectatrices et spectateurs, eh bien on oscille entre les deux. Non sans rire, sans sourire, parce que vous essayez, tant bien que mal, d'utiliser cette machine-là qui nous apparaît, nous, comme étant votre corps. La machine qu'on a devant nous, c'est votre corps à vous, Larry Bott. À partir de quand vous vous êtes dit que ça va, vous commenciez à bien la gérer, cette machine-là, la machine de votre corps?
Bon, c'est une machine qui sert à mourir, à la tuer. Donc, elle est directe, elle va directement à la mort. Elle n'a pas d'entraînement. Mais il y a beaucoup de pièces dans la série Mas Distinguidas, parce que c'était la série que j'ai fait dans les années 97. Presque toutes les pièces distinguées de cette période ou de cette série sont doubles. Il y a toujours la danseuse, la danse qu'on imagine et la danse qu'on voit qui est en train de se faire. Comme sujet, il y a tout un jeu d'objets, sujets dans toutes ces pièces. La fin, par exemple, avec la numéro 26, pièce numéro 26, c'est le corps qui est peint et en même temps le corps qui s'est peint. Donc il y a toujours ce double objet-sujet en permanence et surtout un manuel de Uso. Manuel de Uso s'appelle, oui.
Le manuel d'usage. Ouais. Ça traduisait votre rapport à ce moment-là, à la danse, au corps dansé, à ce que c'est que de chorégraphier, qu'est-ce qu'on appelle la danse exactement? C'était un peu l'état de vos réflexions à ce moment-là?
Probablement, je me souviens pas très bien, ça fait beaucoup de années que j'ai fait ces pièces, sont très anciennes pour moi, mais probablement s'il y a une réflexion par rapport à l'utilisation du corps, je sais pas si c'est le corps de la danse, mais à comment on utilise le corps et qu'est-ce que c'est l'usage du corps de l'autre et le nôtre propre. Et si, il y a une réflexion autour de cet usage qui me surprend encore beaucoup.
Mais justement, je repose ma question autrement. À partir de quand vous vous êtes rendu compte que vous saviez bien l'utiliser, cette machine? Que c'était intéressant pour vous d'utiliser la machine du corps?
Bon, la machine du corps, elle est utilisée depuis que je suis née. Non, depuis qu'on commence à comprendre la conscience du corps, on commence à l'utiliser. D'ailleurs, le corps qu'on voit panoramique, c'est encore très artificiel. C'est encore complètement construit comme femme, fausse, avec des cheveux forts, des poitrines fausses, avec des cicatrices. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très construites à propos, comme pour parler de ce corps qui n'est pas vraiment encore naturel. C'est une espèce de machine cyber, ou si c'est pas cyber, il est pas, c'est une femme construite.
Pour dire quoi? Pour dire que c'est toujours ça? C'est toujours une construction?
Si. Pour dire ça, pour dire que je suis femme par chance.
Ou par hasard?
Par les deux. Ou par construction aussi.
Mais plutôt par chance alors pour vous?
Quand j'étais jeune, je disais toujours que j'étais femme par chance. Mais là, maintenant, je peux le dire que ce n'est pas construction culturelle, mais aussi construction littérale.
Mais on peut dire que ce n'est pas construction et par chance?
Les deux, on
ouais.
peut dire les deux.
Ouais. Oui, on pourrait. Au final, on peut considérer que c'est bien construit.
Bon, mais c'est une construction culturelle à partir d'une chance que tout d'un coup, je suis née comme femme, mais ça a été j'ai continué cette construction culturelle.
C'est bizarre que vous disiez ça parce que quand je suis rentrée dans la nuit, dans la ville, sur mon vélo, je me suis dit, c'est marrant, ça m'a donné de la force. Comme si moi, ça m'avait donné de la force. Je me suis dit, je sais pas, ça me donne de la force. Ça me donne de la force.
Mais pourquoi c'est
étrange? Je sais pas, je me suis dit, oui, femme par chance.
Je me suis dit,
bonne pioche. Ouais, je me suis dit, bonne pioche.
Mais c'est bien que ça donne de la force. Mais ça, c'est. Bon, je ne lis pas au genre, je les lis à l'esprit. Parce que, bon, moi, la chose que j'aime plus quand je vais voir quelque chose ou un artiste, c'est qu'il me donne de la force, qu'il me donne de la lumière, qu'il me donne des idées, qu'il me donne envie de continuer à travailler, à vivre. Par chance ou par construction, je m'en fous qu'il me donne l'idée.
Oui, peut-être qu'en fait, on s'en fout, il n'est pas question de genre, en fait.
Non, non, c'est pas une question de genre dans le cas de la force ou de l'illumination ou l'envie, non? Les désirs. Les désirs, c'est fondamental qu'on donne des désirs. À construire et à continuer.
Vous l'avez trouvé chez qui, vous?
Ouf, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes.
Par chance?
Si, bon, si, par chance, parce que je crois que c'est une chance d'être artiste, là, maintenant, avec le monde comme il est et tout. J'ai toujours trouvé que j'avais la chance, oui, parce que, bon, toi, comme artiste, tu as la possibilité de rêver la poésie directe. Il y a un état mental que j'aime beaucoup et que je trouve que c'est une chance terrible.
Et il y a des artistes en particulier qui, à des moments où vous manquiez de force ou de désir, vous ont vraiment réinjecté de la vie?
Oui, probablement oui. Par exemple, Vivian Westwood, quand je suis triste, elle est collée, une photo que j'aime beaucoup, elle est collée dans une de mes notebooks, de mes cahiers, que je crois que d'ailleurs il va être présent, il sera ce cahier au CND. Il y a une photo de Vivian Westwood qui me donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie de...
Juste son visage, juste son corps, ou l'image de son visage et de son corps.
Non, c'est pas son visage, elle est assise et parfaitement habillée d'une façon absolument géniale, avec des chaussures et un truc complètement collé à sa peau, elle comprend, c'est comme une photo d'elle assise que quand je la vois, je comprends qu'elle comprend tout. Elle a compris parfaitement qu'est-ce qu'elle fait. Et elle est exactement comme ça parce qu'elle a tout compris. Et ça me donne beaucoup d'énergie, beaucoup de... J'aime beaucoup quand les artistes que je vois, et ils comprennent.
Comme une forme quoi, de maîtrise du moment ou de façon d'habiter précisément le temps?
Non, une façon d'illumination. C'est un truc beaucoup plus spirituel, je trouve. C'est vraiment de comprendre pourquoi la chaussure, elle est là, et pourquoi les cheveux comme ça, et pourquoi elle regarde. C'est une question d'énergie. Je crois que c'est une question d'énergie. J'ai dit toujours que la danse n'est pas, évidemment, des formes. C'est une question d'énergie.
Et
c'est
l'énergie. Vibration, quoi.
Si, énergie pure et concentration pure. Donc, c'est ça qui nous donne la force que tu disais avant. C'est une concentration d'idées pures, des mentales, qui te donnent beaucoup de chaleur physique, non? Waouh! Et ça me allume complètement la tête et tout.
C'est une des choses qui est frappante quand on vous voit danser, la ribote, c'est ça? Alors on se dit, est-ce qu'elle elle le convoque là, comme ça? Est-ce qu'elle s'est préparée dans sa loge? Est-ce qu'elle est tout le temps comme ça?
Je ne sais pas. Et...
La présence.
Si, bon, j'ai toujours été très intéressée par la présence. La chose qui m'intéresse de la danse, plutôt, c'est le moment, exactement le moment qui est en train de se passer quelque chose. Je trouve qu'il y a... Bon, il y a une concentration d'énergie et d'idées pures qui ça m'épate complètement. Ce matin, je ne sais pas si c'était hier ou ce matin, quelqu'un m'a demandé la même chose et je lui dis, écoute, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je fais du yoga. Je me tiens plus ou moins bien pour manger assez tranquille peu, mais surtout, je ne fais pas une autre chose. J'ai fait des interviews, par exemple, dans des moments comme ça, comme panoramique, qui sont des moments très intenses, très, très intenses. Je fais le minimum possible. Je fais des interviews qui me concentrent pas mal, parce que les interviews, même si tu te concentres dans ton truc, alors ça, c'est pas un truc qui me dérange beaucoup. Je vois très peu de gens.
Mais par exemple, je sais pas, vous faites des courses, vous aimez quelqu'un, vous avez des enfants, vous faites des machines, ça décentre quand même un peu, non?
Oui, mais je le fais peu. Je fais peu. Je fais des courses et au moment que je suis en train d'acheter la troisième, j'en ai marre et je pars et je dois rentrer ou aller me promener. Je suis tout le temps avec moi.
C'est de la concentration, en fait. C'est le secret de la concentration, ouais. C'est la concentration.
Et s'il y a des choses qui me... L'autre, il me parle des choses qui ne m'intéressent pas, je coupe la tête et je pars dans mes trucs. Et si tu me demandes qu'est-ce que tu penses, je ne sais pas qu'est-ce que je suis. Mais je suis à panoramique tout le temps, avec mes idées, pima pima, avec des petits détails dans la tête, que je dis, ah oui, quand je fais ça, poum, pas. Je pense à mes choses, je ne sais pas. J'ai aucune envie de parler avec les gens. Pendant ces 10 jours, par exemple, que je suis à Paris, je suis concentrée à moi. Et je fais que ça. Aller voir une expo, ça me prend beaucoup d'énergie. Je fais le minimum possible. Et si je parle de ça. C'est obsédant, c'est un peu... Mais c'est la seule chose que je fais, et yoga.
Et ça depuis des années, en fait.
Dans les moments intenses, dans les moments des tournées, dans
oui,
les moments
on peut considérer que ça fait tellement d'années que vous travaillez, la ribote, que peut-être que, en fait, c'est ça.
Oui. Il y a des périodes que je suis complètement concentrée, je ne veux pas faire une autre chose, et je fais que ça. Faire penser à mes choses et écrire, lire et travailler dans mon truc.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
J'ai compris maintenant que la performance est une forme d'art immatériel, mais aussi une forme invisible. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez puniser sur un mur comme un tableau qui est toujours là. Quand on revient le lendemain, vous devez être là au moment même où ça se passe. C'est quelque chose que vous devez ressentir. Ça veut dire que tout repose sur la façon dont vous existez et la façon dont vous concentrez votre énergie. Et vous n'avez besoin de rien, littéralement de rien. C'est juste vous et la personne en face de vous. C'est ce qui s'est passé au MoMA. Au début, les gens étaient suspicieux, mais ensuite, ils faisaient la queue des heures et des heures pour pouvoir s'asseoir en face de moi. Ils ne pouvaient pas vraiment expliquer pourquoi, mais j'ai appris comment je pouvais projeter cette énergie, l'offrir. Et ça, je ne pouvais pas le faire quand j'étais jeune. Je n'avais pas ce savoir-là, cette expérience.
C'est la voix de Marina Abramović que vous écoutiez en hochant la tête, la ribote. Au micro d'Aurélie Charron, c'était en 2013. Il a fallu du temps, de l'expérience. Elle parle du développement de soi pour parvenir à faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire jeune. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous faites aujourd'hui, que vous dansez aujourd'hui, que vous faites aujourd'hui, la ribote, qui auraient été impossibles il y a 30 ans?
Je ne sais pas si c'est impossible, mais c'est vrai que les choses que je fais maintenant, même si sont, par exemple, panoramiques, ça faisait quoi, 20 ans que je ne les faisais pas, c'est une reprise. Et la pièce de la fin, Euphémia, c'est la pièce avec la peinture rouge, elle est devenue en soi simplement beaucoup plus silencieuse et dramatique et sentie, finalement.
Et que précédemment, que la manière,
oui,
dont vous le faisiez.
Oui, qu'en 1994, je crois que je l'ai fait, elle était certainement beaucoup plus comique. Pourquoi?
Elle était tellement pas... Là, c'est fou, moi, comme je l'ai vu. Ah ouais, pas du tout.
Bon, les pièces distinguées changent beaucoup de signification entre le tragique et le comique. C'est mélange, il y a beaucoup de tension entre les deux choses. Mais Euphémia, par exemple, là, il n'y a rien de comique. Je n'arrive pas à le faire. Et je n'ai pas envie, en plus, de le faire comique. Il n'y a rien de comique là à Euphémia pour moi. Et je ne sais pas si j'avais la force de le faire comme ça, mais c'est comme ça maintenant. Alors, je crois que l'expérience, c'est vrai qu'elle peut changer beaucoup la façon de faire les choses.
Mais elle les transforme, en fait, à vous écouter davantage, qu'elle ne les améliore, la ribote. J'ai l'impression que ce que vous dites, c'est que le temps et l'expérience transforment simplement la manière dont on fait les choses, mais ne les rend pas nécessairement meilleures. J'avais l'impression, dans la voix de Marina Abramović, que c'était plutôt ça qu'elle disait. Je suis plus capable maintenant. Vous diriez juste, je suis capable d'autre chose.
Oui.
Je fais d'autres choses.
Ouais, je peux transformer ça. Si l'expérience peut transformer la chose que je fais, meilleure ou pire, je sais pas. Je le fais comme je le fais dans ce moment-là, mais elle peut être différente, très très différente. Avec plus de force, je crois. J'ai plus de force maintenant et plus de clarté. Je crois que je suis plus claire quand je fais les choses.
Que ce soit ce travail-là ou que ce soit du travail chorégraphique avec d'autres personnes, avec des troupes, par exemple, de danseurs ou de danseuses, vous avez gagné en clarté avec le temps, vous diriez que c'est ça?
Ouais, clarté beaucoup et force. Bon, à quelque chose doit servir l'âge, non? Oui, je crois que c'est clarté et force. Et aussi liberté, d'ailleurs, oui, aussi liberté. Je fais beaucoup plus ça que je dois faire ou que je veux faire. Dans les sens artistiques.
Quand vous dites ça, je pense, quand vous dites clarté, liberté et force, je pense à une page d'un carnet qui nous accueille à l'entrée de la Galerie 3 en ce moment à Beaubourg, à Paris, où, je ne sais pas si ce sont des petits tirets ou des petits points, mais c'est la colère, le vide et la colère. Ça a quoi comme place dans le processus ou dans votre vie de création, ce vide et cette colère?
La colère a été super nécessaire pour presque tout mon travail. Si je n'ai pas de colère, je n'ai rien à dire. C'est très très nécessaire être en colère contre les choses, contre même si après le travail que je fais, il est plus amable peut-être des fois. Au fond, il est violent peut-être, mais il est amable, ou drôle. Bon, l'humour fait toujours que c'est ambigu. L'humour change la signification des choses. Donc, au moment qu'il y a l'humour, on croit que c'est un truc amable. Et peut-être qu'il n'est pas autant amable. C'est beaucoup plus tragique ou beaucoup plus violent. Mais les idées, que c'est ça qui me bouge de vrai, viennent de la colère.
Depuis toujours ?
Ouais, je crois que ouais.
Même les premières classes de danse classique en Espagne, colère. Ou surtout.
Bon, ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, ça. Je m'imagine tout arraché, en train de danser. Non. Non, parce que les danses, disons que les danses des cours classiques, comme tu dis, sont des danses qu'on va apprendre. Mais au moment de création, d'invention, de réflexion des idées, c'est oui. Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui viennent par la colère ou ou ne pas être d'accord avec les choses comme elles sont.
Comme quoi, par exemple?
Bon, par exemple, Another Bloody Mary, la pièce que je te racontais de la personne qui a été tuée dans cette tristesse et colère. La façon que j'utilise la caméra quand je fais des films, je ne suis pas d'accord avec la vidéodance. Je trouve que la vidéodance n'apporte rien à la danse, par exemple, comme c'était compris la vidéodance des années 80. Et quand je découvre la caméra, je l'utilise complètement différent. Et il y a beaucoup de choses comme ça, ou...
Comme des réactions, en fait.
Si, comme des réactions, ou des propositions, des visions de la femme, ou des visions du corps, ou des visions de la danse contemporaine comme un art contemporain, qui n'était pas comme ça avant. Ou beaucoup de choses, oui, qui sont mal placées, mal compris, ou que je ne suis pas d'accord.
Aujourd'hui, il n'y a pour vous plus aucune distinction comme une sorte d'horizontalité dont vous parliez tout à l'heure entre vos pratiques, c'est-à-dire la pensée, la danse, le mouvement, l'immobilité, le temps, l'accrochage d'une robe, la position d'une chaise, le fait de jouer telle ou telle musique. C'est de l'expression artistique contemporaine, peu importe si on parle d'art plastique, de danse ou que sais-je.
Bon, pas autant.
Pas à ce point-là.
Pas à ce point-là, parce que, non, à ce point-là, on pourrait rien faire. Pas à ce point-là. Mais il y a, je sais que je suis un artiste transversal. C'est-à-dire que je ne peux pas m'arrêter dans les définitions qui donnent l'académie, ou qui donnent les marchés, ou qui donnent les institutions, sinon. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point on peut tout mettre dans les mêmes niveaux. C'est un peu exagéré. Je disais ça avant quand je parlais de comment j'avais organisé les objets, les musiques, les mouvements, la couleur des panoramiques. Mais je ne sais pas si je peux élargir ces pensées à tout les...
Parce qu'on a besoin de certaines frontières.
C'est pas frontière en soi, c'est plutôt peut-être un conteneur ou quelque chose qui c'est pas par définition ni pour limite, c'est pour pouvoir déménager ailleurs, se contenir. Je sais pas m'exprimer, mais
non, c'est très clair. C'est bien d'être contenu de temps en temps pour pouvoir sortir de ça, en fait.
Si, les conteneurs, dans le sens que tu peux les transvaser, les choses, mais c'est pas autant une question des carrés ou de limiter, mais non plus de perdre comme de l'eau.
Vous disiez que l'humour, ça rend les choses ambivalentes, que ça donne du sens dans le cas de pièces distinguées. Mais bon, on peut penser à d'autres de votre travail. Une pièce avec Mathilde Monnier, par exemple, il y a quelques années, où l'humour était très présent. C'est vrai qu'on rit, souvent. Mais vraiment, franchement. Et vous souriez, parfois, sur scène.
Ouais.
Ça a quoi comme place pour vous, cet humour-là, ce rire-là?
L'humour, il est fondamental pour regarder le monde, pour moi.
Tout. Il vous sert à quoi?
Bon, peut-être à prendre la distance avec la douleur, à prendre la distance avec la nuit, à prendre la distance avec la violence. À prendre la distance.
Les burlesques, quand même, éprouvent le besoin d'avaliser l'enchaînement involontaire, l'enchaînement gratuit des surréalistes en le mettant sur le compte d'une histoire de fou. C'est-à-dire que je crois que les surréalistes auraient présenté l'homme qui se tient après le pinceau pendant qu'on partirait l'échelle absolument d'une façon concrète. Tandis que là, dans le burlesque, on est forcé de dire attention, c'est une histoire de fou.
Ça n'est pas vrai.
Qu'est-ce qui n'est pas vrai?
Ben non, vous dites
Vous prévenez le public, vous leur dites ce n'est pas vrai.
Effectivement.
Ce que je fais, c'est pour vous faire rigoler.
Voilà.
Mais je ne suis pas dans le coup.
Voilà.
Je reste à l'extérieur.
Voilà.
Ah, ça, je ne sais pas si il y a complicité. Je ne sais pas si il y a complicité entre l'auteur de burlesque et le public.
Il faut pas tellement qu'il y ait complicité.
Je vous en prie,
il faut surprendre les gens. Il faut surprendre. Non, n'est-ce pas? Non, c'est si on explique aux gens ce qu'on va faire, fatalement, ils ne vont pas rire. Il faut les surprendre constamment par un petit fait, par une chose qui vient leur donner un coup de poing, n'est-ce pas, et qui va immédiatement donner cette secousse, n'est-ce pas, qui va les faire s'amuser et qui va. Il faut les surprendre constamment par quelque chose. À mon sens, il faut les surprendre constamment.
On va terminer par cette petite secousse, cette petite archive de 1940 sur le burlesque, et on va même pas se donner la peine de le commenter, la ribote. J'étais ravie de vous avoir à ce micro. Le Festival d'automne vous met à l'honneur avec un grand portrait qui dure jusqu'à la mi-novembre. On mettra sur le site internet toutes les dates, tous les rendez-vous. Il y a des choses qui sont incomplètes, il y a des choses où c'est encore possible. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Groovy baby, groovy. Ay. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight.
À la prise de son ce soir, c'était Déborah Dagobert. À la réalisation, c'était Philippe Baudouin. Par les temps qui courent, il y a dans la bande Romain de Bec de Lièvre, Lucie Riandet, Marianne Chassor et Jeanne Aléos. Vous pouvez réécouter cette émission via franceculture.fr ou en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. Dans un instant, c'est 22h et c'est le journal. Très belle soirée à vous. Something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. Ay. Hace mucho tiempo que empezó. Ay. Hace mucho tiempo que empezó.